Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Mercredi, l'ancien chef de l'état-major israélien Benny Gantz a appelé à des élections anticipées dans le pays. L'attaque du Hamas a eu lieu il y a maintenant presque 6 mois et depuis, au vu des sondages, la popularité de Netanyahou n'a cessé de chuter. Mais les quelques manifestations actuelles n'ont pas l'ampleur de celles qu'avait suscité la réforme de la justice il y a 1 an et les voix appelant à un cessez-le-feu se font rares. Quelle est donc la nature de cette contestation ? Bonjour Thomas Vescovi.
Bonjour.
Vous êtes historien, membre du comité de rédaction du blog Yahani.fr. On vous doit notamment l'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël aux éditions de La Découverte. Peut-être tout d'abord une première question. Qu'est-ce qui pourrait provoquer des élections anticipées en Israël ?
Je crois que ce serait évidemment le départ des deux membres de l'opposition qui sont actuellement dans le cabinet de guerre, que sont notamment Gadi Eisenkot et Benny Gantz. C'est ce que beaucoup d'Israéliens dans l'opposition leur demandent de faire et les poussent, en revendiquant le fait que Netanyahou, ce serait pour lui en fait la fin de cette espèce de volonté de montrer une forme d'unité dans la guerre menée actuellement à Gaza.
Donc sur le plan constitutionnel, ça signifierait que le gouvernement, donc celui du Premier ministre Benjamin Netanyahou, n'aurait plus la majorité à la Knesset.
C'est exactement ça, sauf que Netanyahou effectivement fait tout pour gagner du temps parce qu'il sait qu'en cas d'élection actuellement, sans pouvoir mobiliser en fait des preuves de victoire, c'est une défaite assurée. Les sondages lui donnent un bloc autour de 47 à 48 sièges, alors qu'il en faut 61 pour être majoritaire, c'est ce qu'il a actuellement. Là où à l'inverse, vous avez l'opposition qui pourrait absolument avoir un bloc assez majoritaire. Le Likoud, par exemple, en cas d'élection prochaine, passerait de 31 sièges à 18.
Et alors, il faut rappeler, Thomas Vescovi, que c'est une coalition assez hétéroclite qui va, disons, de l'extrême droite, je vais vous laisser qualifier les choses, de l'extrême droite ou bien des suprémacistes aux centristes qu'incarne Benny Gantz. Par conséquent, ça doit quand même être difficile de rassembler tous ces gens derrière la même bannière.
Mais en fait, le cabinet de guerre, quand il s'est constitué, il y avait une condition préalable. C'était d'abord que les fameux suprémacistes juifs ne soient pas membres du cabinet de guerre. Cependant, ils ont toujours leur marge de manœuvre et ils continuent à agir. Et on voit notamment dans la politique qui est menée en Cisjordanie à l'encontre des Palestiniens. Et également, c'est le fait que la Knesset ne peut faire voter des lois que celles qui concernent précisément l'effort de guerre mené actuellement par Israël. Et donc, dès lors que la Knesset sera amenée à statuer sur autre chose que l'effort de guerre, tout porte à croire qu'effectivement la majorité sera compliquée à être maintenue et l'opposition va être de plus en plus dure, et ceci notamment si les membres d'opposition quittent le cabinet de guerre.
Bon, alors, dans ces conditions, pourquoi les centristes qui font partie de ce gouvernement, je ne parle pas de la gauche, puisque comme vous l'avez expliqué notamment dans votre livre « L'échec d'une utopie, publié aux éditions de La Découverte, la gauche israélienne est en piteux état, mais pourquoi les centristes n'en profitent pas pour faire tomber ce gouvernement ?
Alors, il faut comprendre qu'en Israël, même si on a autour de 70% d'Israéliens qui veulent des élections anticipées, hein, il faut savoir que les prochaines sont prévues normalement en 2026, on a, vous l'avez bien dit en introduction, pas une mobilisation massive d'Israéliens pour demander actuellement une démission de Netanyahou ou même pour aller vers un cessez-le-feu. On a en revanche une idée plus précise qui est qu'il faut laisser le cabinet de guerre gérer puisque sinon on va affaiblir le pays. Et donc même quelqu'un comme Benny Gantz estime que des élections anticipées doivent avoir lieu mais pas tout de suite. Par exemple, il demande à ce qu'ils aient lieu en septembre. Gadi Eisenkot parle lui d'élections en janvier prochain parce qu'il y a l'idée vraiment des sur le temps des élections qui ne doivent pas venir fragiliser un pays qui déjà montre quand même beaucoup de signes de fragilité. C'est important de préciser que, en règle générale, en Israël, les situations de guerre ou de campagne de répression contre les Palestiniens sont des moments suffisants pour former un véritable ciment et unité nationale. Là, on le voit, depuis le 7 octobre, on a un ciment qui s'est clairement fragilisé avec des manifestations tous les samedis et une opposition vraiment de plus en plus radicale, même si elle n'est pas massive dans la rue, mais radicale contre Netanyahou et le maintien de ce gouvernement.
Alors là, il faut énumérer les différentes raisons de mécontentement vis-à-vis de Netanyahou. Thomas Vescovi, il y a différents sondages. Qu'est-ce qui est reproché au Premier ministre par les Israéliens, je veux dire ?
En fait, on a actuellement la troisième vague de mobilisation contre Netanyahou en 4 ans. On a les historiques qui, depuis 2019, manifestent contre le maintien au pouvoir d'un Premier ministre qui est accusé de multiples affaires de corruption. On a également un reproche depuis janvier 2023, d'un gouvernement qui cherche en fait à destituer toutes les institutions de la démocratie juive en Israël, et donc avec les suprémacistes juifs et toute leur volonté d'aller dans un changement de régime. Et puis, s'est ajouté en fait depuis le 7 octobre la question des familles des otages, où on reproche notamment Netanyahou de vouloir gagner du temps pour maintenir la guerre, pour se maintenir au pouvoir, au détriment précisément des otages. Il faut rappeler qu'on a encore 134 Israéliens qui sont otages dans la bande de Gaza. Et donc cette opposition, c'est assez complexe parce qu'elle est favorable majoritairement à un accord pour arriver à la libération des otages, mais pas non plus à n'importe quel prix, et par exemple pas non plus au prix d'une fin définitive de la guerre. Il y a vraiment l'idée que la destruction du Hamas est quasiment mise au même niveau en termes d'urgence que la libération d'otages.
Quel qu'en soit le prix humanitaire, qu'est-ce que l'on sait à ce sujet, puisque l'opinion publique internationale est horrifiée par la manière dont la guerre se déroule à Gaza? Qu'en est-il en Israël, Thomas Vescovi, d'après ce qu'on peut mesurer, bien sûr?
Bien sûr. La chercheure Amélie Ferré parle de bulle cognitive, et je reprends à mon compte cette expression pour parler à la société israélienne. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas vraiment un tabou ou un refus de savoir ce qui se passe à Gaza, mais il y a vraiment un réel désintérêt sur le sort des Palestiniens, dans l'idée qu'en fait, ils sont responsables de leur sort, ce qui quelque part reflète une certaine forme de mentalité qu'on peut qualifier, disons, de coloniale. Et c'est ce qui renforce, je pense, ce fossé avec l'Occident. L'intellectuel Peter Beinart parlait dans le New York Times récemment d'une grande rupture entre Israël et la communauté juive américaine, parce que précisément, alors qu'en Occident, en Europe de l'Ouest et dans les pays d'Amérique du Nord, le terme, par exemple, de la qualification de génocide est de plus en plus récurrente, en Israël, on ne comprend pas ces qualifications parce que, eh bien, on ne s'intéresse pas forcément sur des Palestiniens, et surtout, on voit en priorité la guerre à mener contre le Hamas. Sauf que cela, à mon avis, est en train, je ne dis pas de changer, mais en tout cas, avec le temps, il va falloir affronter notamment des voix hétérodoxes. Je pense notamment à des soldats qui, de plus en plus, commencent à témoigner de ce qu'ils ont vu en termes de crimes être perpétrés dans la bande de Gaza. Et hier encore, il y avait un médecin qui était en poste dans un hôpital de campagne de l'armée israélienne près de Gaza, qui a témoigné justement du fait que l'armée ne respectait absolument pas le droit international dans ses pratiques à l'encontre des populations civiles de Gaza.
Bon, mais alors, si on retient cette notion de bulle cognitive, il pourrait quand même, je veux dire, ces Israéliens ou l'opinion publique israélienne en vouloir à ce Premier ministre qui a toujours fait figure d'homme fort et qui a été incapable, c'est le moins qu'on puisse dire, d'empêcher le 7 octobre.
C'est effectivement le cas, en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce paradoxe qui est que vous avez entre 70 et 80% hein, des Israéliens qui jugent Netanyahou et ce gouvernement comme responsables ou co-responsables ou incompétents face justement au 7 octobre et aux suites. Sauf que cependant, il y a vraiment un sentiment en Israël de guerre quasi existentielle, d'être en fait aux prises avec des groupes qui veulent leur destruction. Et donc face à ça, l'idée d'une paix immédiate avec les Palestiniens, elle n'est pas du tout à l'ordre du jour. Je prends par exemple lorsque récemment, il y a eu des appels de Biden, l'administration américaine ou de l'Europe de l'Ouest, notamment l'Union européenne, pour amener les Israéliens à revenir vers un processus de paix pour aller vers deux États, il y a eu immédiatement une très nette majorité de députés israéliens, comprenant également l'opposition à Netanyahou, qui a voté en faveur d'une résolution pour dire qu'on ne veut pas actuellement nous imposer quoi que ce soit parce que ce n'est pas à l'ordre du jour. Et côté société civile, c'est pareil. Il y a vraiment l'idée qu'en fait, la paix avec les Palestiniens n'est pas à l'ordre du jour. Alors même, et là je reprends les termes de Ami Ayalon, qui est l'ancien directeur du Shin Bet israélien, les services secrets intérieurs, Ami Ayalon, dans Le Monde récemment, expliquait qu'en fait, c'est précisément en allant vers un processus de paix que les Israéliens pourront ne pas craindre de revivre un 7 octobre. Et c'est justement l'inverse qui risquerait de faire revivre un 7 octobre.
Mais oui, mais alors, justement, puisque vous citez Elon et ses propos, ce qui est étonnant, c'est, alors je ne parle pas des suprématistes juifs qui, eux, de toute façon, ne veulent pas de compromis et imaginent la situation du pire, mais les autres, je veux dire les personnes raisonnables, comment imaginent-ils l'après? Parce qu'il va bien falloir trouver un modus vivendi entre les Palestiniens et les Juifs.
En fait, c'est assez complexe, il faudrait faire quasiment champ politique par champ politique. Ce qui est en tout cas certain, c'est que depuis quasiment maintenant 20 ans, vous avez en Israël, et y compris dans l'opposition qui est formée donc du centre ou même de l'historique gauche sioniste, on va dire ça comme ça, vous avez l'idée qu'en fait, il ne faut pas forcément revenir à un processus de paix, il faut venir avec des plans tout prêts qu'on va imposer aux Palestiniens et via notamment des solutions uniquement sécuritaires. C'est ce qu'on voit notamment depuis quasiment les années 2000, sauf qu'on ne comprend pas à quel point tout ce système-là va précisément à l'encontre de l'idée d'une démocratie pour les deux populations, où on pourrait demander aux Palestiniens également quelles aspirations ils souhaitent. Et je crois que là, il y a en fait effectivement la volonté de revenir avec les mêmes enjeux, avec les mêmes dynamiques. Par exemple, on parle beaucoup côté israélien de choisir ou de trouver les hommes forts qu'on pourra mettre à la tête éventuellement d'une administration à Gaza ou même de quelqu'un pour remplacer Mahmoud Abbas. C'est assez sidérant parce qu'on se rend compte qu'il n'y a même pas d'idée de vouloir appeler les Palestiniens à aller, par exemple, aux urnes pour des élections, ce qui paraît pourtant complètement normal d'un point de vue démocratique.
Merci beaucoup, Thomas Vescovi. Je rappelle que vous êtes historien, membre du comité de rédaction du blog Yanni.fr et on vous doit notamment L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël. C'est un livre publié aux éditions de La Découverte. Dans quelques instants, eh bien, nous serons avec Alexandra Delbo, oui, c'est ça, avec Science. Et on va s'intéresser au nez des insectes parce que, oui, les insectes ont un nez, enfin, j'imagine, puisqu'ils ont une capacité d'olfaction. On va tout vous expliquer.